France Inter.
Aujourd'hui, Sapiens et les microbes, raconté par Renaud Piaroux, professeur à Sorbonne Université et spécialiste des épidémies.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le 25 mai 1720, le grand Saint-Antoine jeta l'ancre dans le port de Marseille. Depuis, ses cales, chargées de soie, cotonnades et peaux venues de Syrie, s'échappaient à bas bruit des siècles de terreur. La peste venait de franchir à nouveau les portes de l'Europe. Le navire aurait dû être mis en quarantaine stricte, comme le dictaient les règles sanitaires, mais la cupidité parla plus fort que la prudence. On pressa le déchargement, on marchanda, et bientôt, malgré 7 morts à bord et des symptômes suspects, les ballots furent discrètement déchargés à 2 pas du cœur de la cité. Les jours passèrent et la maladie gagna du terrain, lentement d'abord, puis comme une traînée de poudre. Des lingères furent contaminées après avoir lavé du linge de bord. Des tissus infectés changèrent de main, véhiculant les puces et les rats. Le 31 juillet 1720, les autorités ne purent plus nier l'évidence, la peste était dans Marseille. Alors commença le grand enfermement, les portes de la ville furent closes, les marchés vidés, les familles cloîtrées, le port de la cité phocéenne se tut. 1000 fois, 1000 personnes, jusqu'à 2000 mouraient chaque jour. Les rues empestées résonnaient du roulement sourd des charrettes à cadavres et la teneur gagna les campagnes. Les fuyards de Marseille, souvent porteurs sains, la répandirent malgré eux dans les villages reculés de la Provence. Pour tenter de contenir la contagion, les autorités établirent un cordon sanitaire puis érigèrent un mur de pierre sèche long de plusieurs dizaines de kilomètres gardé par 1000 soldats, le mur de la peste. Et puis au cœur de l'hiver, les morts se firent moins nombreux, les maisons furent désinfectées à la chaux et au soufre, les étoffes brûlées, les meubles réduits en cendres, les chiens et les chats exterminés. On purifia l'air avec des herbes, de la poudre à canon et du vinaigre. En 1721, l'épidémie fut contenue et en janvier 1723, les troupes quittèrent le mur de la peste, le port de Marseille fut rouvert. Au total, près de 40 000 Marseillais périrent, 50 000 autres moururent dans les provinces alentours, la moitié de la ville disparut en un an. 3 siècles plus tard, les pierres du mur sont encore debout, vestige d'un acteur invisible mais qui a joué un rôle majeur dans le destin des sociétés humaines, le microbe. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Renaud Piaroux.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui est publié aux éditions du CNRS, Sapiens et les microbes, les épidémies d'autrefois. Alors cet épisode de la peste marseillaise en 1720 fait partie des innombrables épidémies que notre espèce a dû affronter. Est-ce que la cité phocéenne, où vous avez d'ailleurs travaillé, garde les traces de cette épidémie ?
Clairement, elle en garde les traces, en tout cas dans la manière dont on envisage les épidémies à Marseille. Ça reste quand même un passé qui n'a pas totalement disparu. Après, je ne pourrais pas vous dire si on va trouver tel ou tel signe. On a quand même le cours Belzunce à Marseille. Le cours Belzunce, c'est une place importante. C'est du nom de Monseigneur Belzunce, qui était l'évêque de Marseille. Donc on va retrouver les noms, le Chevalier Rose, et on va retrouver les noms dans les rues. Et derrière, il y a toutes ces histoires autour de la peste.
Est-ce qu'après un tel épisode épidémique, la ville, à l'époque, s'est rétablie rapidement ou ça a pris beaucoup de temps, au contraire ?
Ça a été assez rapide, en réalité. Alors que la moitié de la population est morte, il y a eu dès 1721-22 des mariages. Finalement, les gens ne restaient pas seuls. Et des personnes qui se sont réinstallées dans Marseille. Et donc, contrairement, par exemple, à Martigues, qui a aussi eu la peste, oui. Marseille a récupéré une population équivalente autour de 80 000 habitants, donc 40 000 morts, oui. Ça veut dire la moitié des habitants, a récupéré assez rapidement sa population. C'est pas toujours le cas. Oui. Et c'est intéressant de savoir pourquoi, dans certains cas, les villes récupèrent vite et pourquoi elles ne récupèrent pas vite rapidement.
Et alors, en l'occurrence, en ce qui concerne Marseille, comment vous l'expliquez ?
Il y a un effet attractif. Il y avait des maisons libres. Il y a eu une attraction des gens de la campagne ou des petites villes autour pour repeupler Marseille. Et puis, l'événement, finalement, a un début, puis a une fin. Effectivement, même après les quelques rechutes, au bout de 2 ans, cette histoire était terminée et les gens pouvaient rentrer. Dans d'autres cas, on en parlera peut-être, l'épidémie d'Haïti, par exemple, qui a fait beaucoup moins de morts en proportion de la population, Haïti a dû... un mal fou à se remettre et à retrouver un fonctionnement.
Ouais. Vous parlez du choléra.
L'épidémie d'Haïti, c'est pas la peste, bien sûr, ouais. C'est le choléra.
La population donc s'est reconstituée, vous le dites, assez rapidement. Et vous racontez aussi que cette épidémie de peste à Marseille a fait l'objet d'une polémique sur l'origine et la nature épidémique d'ailleurs. Ça fait beaucoup discuter ça à l'époque. Hein.
Alors j'ai entendu dans votre présentation que vous disiez que le 31 juillet, donc on est déjà quand même 2 mois, hein, de tout le mois de juin et tout le mois de juillet. Effectivement, la peste explose le 31 juillet, enfin à cette période-là, mais les échevins qui étaient propriétaires d'une partie, le premier échevin de Marseille qui était propriétaire d'une partie de la cargaison, ont freiné des 4 fers pour qu'on ne dise pas que c'était la peste. Et malgré une visite, alors il n'y avait pas l'OMS à l'époque, on avait l'université de Montpellier, on va dire que c'est une délégation de
sanitaires,
de sachants qui viennent. Ils viennent au mois d'août, au milieu du mois d'août, et c'est déjà une catastrophe avérée. Et ils s'aperçoivent que c'est la peste, mais dans les avis qui seront placardés quelques jours après leur passage, après une négociation, le mot peste n'est pas prononcé.
Il y a des enjeux économiques derrière tout ça, évidemment. Hein. Ce sont des marchands qui sont visés, qui sont responsables.
Oui, il y a plus que des enjeux économiques. Quand on est premier échevin de la ville de Marseille, qu'on a manifestement, en tout cas c'est ce qu'on comprend quand on lit les comptes rendus, par exemple du docteur Bertrand, qui a rendu compte de cette peste, quand on voit ça, on comprend bien que ces soieries, ces tissus qui ont été débarqués aux infirmeries, c'est juste au nord de Marseille, et qui ensuite sont partis par la contrebande à l'intérieur de la ville. Ces soieries appartenaient en partie au premier échevin, et il y avait un enjeu, oui, un enjeu économique, mais un intérêt personnel encore plus que l'intérêt public. Et donc, effectivement, là, on va se retrouver, et c'est en fait le cas dans pratiquement toutes les épidémies, on va se retrouver sur des récits divergents. On va avoir, par exemple, j'ai parlé du docteur Bertrand, qui lui est sur place et voit très bien et raconte la peste. Et puis d'un autre côté, vous avez l'épidémie racontée par exemple par Pierre Chirac, pas de la famille de Jacques Chirac, mais qui était le médecin du régent, et qui est donc à Paris, qui est une autorité, qui de loin dit mais non, ça peut pas être la peste, c'est juste les personnes qui déchargeaient les ballots, qui ont sué, qui ont attrapé froid, qui sont tombés malades, c'est tant pis. Enfin, c'est de leur faute.
Faisant perdre un temps évidemment ultra précieux. Hein.
Ça fait perdre énormément de temps, et donc on a cette opposition entre une cause naturelle, c'est parce que ils avaient trop chaud, trop froid, etc., et une cause où il y a une responsabilité quelque chose qui n'a pas été fait, qui aurait pu éviter l'épidémie.
D'autant qu'il y avait déjà une expérience de la peste en France. Hein,
et à Marseille. Et à Marseille. Plein de fois. Donc c'est, y avait des mesures à prendre, elles n'ont pas été respectées.
Ouais.
Et troisième récit qui vient se concurrencer les deux autres, c'est le récit religieux avec Monseigneur Belzunce qui lui fait de la peste une punition envers les Marseillais. Parce qu'il y avait des protestants, parce que si, parce que ça, mais pour lui, c'est Dieu qui envoie la peste.
Donc tout ça est une instrumentalisation, effectivement, de l'épidémie. Ces microbes, vous les connaissez très bien, Renaud Piarou, puisqu'ils ont jalonné votre vie professionnelle. Votre livre, donc, c'est un ouvrage sur les microbes dans l'histoire ou sur l'histoire d'Homo sapiens traversée par les microbes. Qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Parce que vous le dites vous-même dans l'introduction, votre propre récit a changé, en fait, au fil du temps.
Le récit, pas vraiment, mais l'image que ça fait. Le récit, c'est, on peut imaginer un puzzle que je reconstitue. Alors, je commence par la peste à Marseille, juste pour placer les choses. Mais ensuite, on part de la préhistoire et on va jusqu'à la grippe espagnole.
1918,
la Première Guerre mondiale. Je voulais revoir l'histoire avec le prisme de la microbiologie, des microbes, et en tenant compte des découvertes récentes, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes ces 10-15 dernières années, grâce à la recherche de l'ADN ancien. On peut chercher dans les dents, dans la pulpe des dents de l'ADN, on peut savoir quel était l'agent pathogène, on peut retrouver plein de choses. Ça a déjà été exposé, je pense, dans cette émission, donc je ne vais pas trop détaillé, mais on a là un prisme qui est intéressant. Et la surprise, peut-être, c'est finalement l'importance extraordinaire que les microbes, que les maladies infectieuses, que les épidémies ont pu avoir sur notre histoire, pour le fait que pourquoi dans la moitié du monde on parle soit anglais, français, espagnol ou portugais, mais c'est une histoire de microbes.
Ouais, ce sont effectivement des micro-organismes qui ont bouleversé bien souvent le cours de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes arrêté d'ailleurs en 1918
hein? Ça faisait déjà beaucoup de choses
à certes,
raconter.
Mais quand même, parce que des épidémies contemporaines.
Alors je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à travailler, je continue à étudier ça, mais dans ce livre, vraiment j'essaie de comprendre la relation entre les épidémies, les microbes et l'histoire. Ouais. Quand on est plus près, on a quelque chose change. À la fin du livre, c'est que le Pasteur a fait avancer, pas tout seul, hein, et Pasteur, Robert Koch et bien ouais. d'autres, et on sait maintenant ce que sont les microbes, et on commence à savoir comment lutter contre.
Ouais.
Donc, je m'arrête là.
Il y a la vaccination qui arrive. Hein,
donc... Il y a la vaccination, il y a plein de choses. Je m'arrête là parce que le deuxième livre, l'interrogation ouais. que je me pose, c'est pourquoi alors on a encore des épidémies. Et donc, c'est plus tout à fait la même logique, mais les deux vont se compléter.
Ouais. Encore quelques questions avant d'aborder d'autres épisodes marquants justement de l'histoire. Les plus anciens squelettes avec la présence de microbes, ça remonte à quand en fait? Parce que bon, Homo sapiens c'est 300 000 ans, mais on n'a pas de traces de présence microbienne à ce moment-là.
Non,
c'est beaucoup plus récent.
C'est trop loin. Là où on voit des choses, c'est sur la tuberculose. Mais on est à plutôt 5-10 000 ans.
Vous parlez de 8 500 ans en Syrie, à peu près avant
voilà,
notre ère.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est l'ordre de grandeur entre 5 et 10 000 ans. La tuberculose, c'est une bactérie qui peut se retrouver dans les os, donc dans des parties qui sont bien conservées. Donc on a des chances de trouver son ADN assez facilement.
Ouais.
La peste aussi, on a des traces de la peste en Europe à l'époque préhistorique, mais c'est quoi, il y a 5 000 ans. Donc, sur ce genre de choses, sur l'ADN ancien, on est plutôt dans ces années-là. Après, ce qu'on peut faire, c'est simplement regarder l'évolution, essayer de reconstituer les ancêtres des microbes qu'on a aujourd'hui par la variété qui existe. La tuberculose, d'ailleurs, on peut, comme ouais. ça, il y a plusieurs lignages, et puis remonter, et là, on peut remonter à pas mal d'années. Puis, si on compare le microbe de la tuberculose à celui de la lèpre, qui est assez proche, ouais. là, on parle en dizaines de milliers d'années. Mais c'est un petit peu différent. Il y a plein de logiques différentes qui peuvent être, et plein de méthodes qui peuvent être appliquées. Elles sont vraiment intéressantes.
Et vous nous rappelez dès le début de votre ouvrage un fait qui peut nous paraître assez étonnant, mais nous sommes tous des descendants de microbes, hein, si on va vraiment aux origines, il y a très 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 longtemps, on parle en milliards d'années, effectivement, on peut dire que nous sommes les descendants des microbes. Oui. On va voir avec vous d'autres épisodes marquants de l'histoire humaine avec vous, Renaud Piarou, et puis vous pourrez répondre aux témoignages, aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
1492, Christophe Colomb croit débarquer en Inde après avoir quitté l'Europe par la mer. En arrivant, il sort son fusil, va voir les habitants des lieux et il dit « À partir de maintenant, ici, c'est l'Espagne ».
Extrait de la chaîne YouTube Alex sur mer en 2023 dans un épisode intitulé « Comment Christophe Colomb a saccagé l'Amérique ». Renaud Piarou, vous êtes épidémiologiste et vous publiez au CNRS édition « Sapiens et les microbes ». Et on va aborder cet épisode majeur de l'histoire, ce choc provoqué par les contacts entre les Européens donc, et les Amérindiens. On est au 15e siècle, la traversée de l'Atlantique a été aussi celle des microbes.
Voilà, c'est pour moi l'événement historique le plus important, enfin au cœur de l'histoire, c'est la mondialisation qui commence.
Oui, absolument.
Avant, le monde était coupé en au moins deux parties, même un peu plus. Donc, et cette mondialisation va s'accompagner de flux de différents des légumes, des fruits, de tout ce qu'on veut, des marchandises, mais aussi d'un flux de microbes, et ça va complètement bouleverser l'histoire de l'humanité.
L'île d'Hispaniola, c'est la République d'Haïti aujourd'hui ?
C'est Haïti et Saint-Domingue.
Il y a les Taïnos donc, qui habitent...
Enfin, une République dominicaine.
C'est ça, les Taïnos qui habitent donc à l'époque cette île, la découverte de l'Amérique par les Espagnols marque le début d'un effondrement démographique. C'est là que ça commence d'ailleurs, a priori ?
À tout de suite, ça commence rapidement. Il va y avoir... un mélange entre, là, dans cette île d'Hispaniola, des actes de guerre, évidemment, de l'asservissement des populations, et puis les maladies, la famine, toute une désorganisation, en fait, de la société des Taïnos pour arriver à une disparition des Taïnos. On ne retrouve plus, ou quasiment plus, leurs gènes parmi les habitants actuels d'Haïti, d'ailleurs, qui viennent d'Afrique.
Ouais.
Parce qu'à partir du moment où il n'y avait plus de population, il a fallu trouver de la main-d'œuvre, et c'est les esclaves noirs qui ont représenté cette main-d'œuvre. Donc tout commence dans l'île d'Hispaniola.
Alors d'ailleurs, c'est intéressant, ça, si on parle effectivement donc, des Amérindiens, des Africains et des Européens. Donc les Européens arrivent avec leurs microbes très virulents. Les Amérindiens, au contraire, subissent de plein fouet la violence des épidémies. Et les Africains s'en sortent un petit peu mieux, c'est ce que vous expliquez. Pourquoi ?
Alors. D'abord, les échanges de microbes entre l'Europe et l'Afrique existaient. Il y avait des contacts. On n'était pas dans une séparation totale. Donc, ça peut être une des raisons. Et puis, alors, je dis pas qu'ils s'en sortent mieux.
C'est une situation intermédiaire, finalement.
Voilà. Hein. C'est pas bon d'être un esclave et
Non, je parle des microbes,
La survie. Oui, oui. Ah ouais. Mais tout ça, enfin, c'est. Donc, il y a quand même une susceptibilité aux microbes. Mais les Africains, et c'est ce qui s'est passé avec l'esclavage, sont venus non seulement les peuples africains, mais aussi les moustiques, Aedes aegypti, qui est le moustique qui transmet la fièvre jaune, donc le virus de la fièvre jaune, et puis aussi le paludisme. Il y avait déjà des moustiques, des anopheles qui étaient vecteurs du paludisme, qui pouvaient fonctionner. Donc en fait, il y a quelque part en Amérique du Sud et aussi donc, dans l'île d'Hispaniola, une flore microbienne africaine qui est venue s'installer, qui a compliqué encore plus la vie des Amérindiens à ce moment-là.
Mais pourquoi les Amérindiens ont été vraiment décimés par les microbes européens, et pourquoi ça ne s'est pas passé dans l'autre sens après tout ? On peut imaginer que les Européens aussi auraient pu souffrir de microbes amérindiens.
Le fait qu'ils soient séparés depuis 20 000 ans, 15 000 ans, enfin ça commence à faire, ils n'ont pas été confrontés aux mêmes microbes, donc, et les virus évoluent rapidement.
Mm-hmm.
Et donc ils se sont retrouvés face à des virus qu'ils ne connaissaient absolument pas, comme le virus de la variole, ou le virus de la rougeole, ou face à des variants de bactéries, comme il y a différents lignages de la tuberculose, et le lignage européen, qui était plus virulent, est passé là. Donc ça a été quand même l'agression par un ensemble de microbes et qui finit par tout désorganiser.
Ouais.
C'est pas dans l'autre sens. Il y a quand même quelque chose. Ça reste encore en discussion, mais à l'évidence, il s'est passé quelque chose à la fin du 15e siècle. C'est l'arrivée de la syphilis, qui probablement donc vient des Caraïbes. Et la syphilis, ça a été une catastrophe en Europe. Mais c'était une maladie contre plusieurs maladies, et l'impact a été beaucoup plus important. En gros, 90% des populations des Caraïbes, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, ou même à l'intérieur de l'Amazonie, sont mortes dans l'espace de 100-150 ans.
Ils ont été très nombreux, ces pathogènes, effectivement, avoir traversé l'Atlantique au moment de la colonisation des Amériques. Variole, rougeole, syphilis, tuberculose, fièvre jaune, paludisme, leishmaniose. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses, une espèce de
défi. J'enlèverais juste la syphilis qui a fait le voyage dans l'autre sens.
Qui a fait le voyage dans l'autre sens, effectivement. 90% des populations indigènes ont été réduites donc en Amérique, démographiquement, en 150 ans. Enfin, ça s'est passé extrêmement
vite.
C'est
ça. En 1650, on a à peu près 5 ou 6 millions d'habitants.
Oui.
Sur l'ensemble des Amériques. On en a une idée assez précise. Et peut-être à la fin du XVe siècle. Là, c'est des estimations, c'est plus compliqué à faire, mais on pensait qu'il y avait 50 millions, 60 millions d'habitants. Donc on est 10 fois moins.
Parlons de l'Océanie également, parce que vous l'évoquez dans votre ouvrage. Est-ce qu'il y a eu des hécatombes similaires à l'Amérique ou pas du tout ?
Oui, et je dois rendre hommage à un collègue qui est anthropologue, qui s'appelle Christophe Sand, qui a passé un temps fou à regarder île par île, et il décrit, dans un livre qui s'appelle « Hécatombe océanienne », il décrit exactement ça. Et une chute de population de l'ordre de 90, voire des fois 95%.
Il cite le cas de l'île de Rapa, qui est située au large de Tahiti, à 1200 kilomètres.
C'est bien au large, mais bon. C'est bien au sud. L'intérêt de cette île, c'est qu'elle est petite. Donc quand les premiers navigateurs arrivent, c'est le capitaine Vancouver qui arrive là. Il peut compter le nombre de pirogues, le nombre de personnes dans les pirogues, et donc faire une extrapolation, se dire quelle peut être la population.
Et donc, il estime à combien,
à peu
près ?
Alors lui estimait à 1500, une autre personne à bord, 3000, entre les deux, il y en a un qui dit et tous les jeunes n'étaient pas là, ils disaient probablement c'est plus. Donc, mais ça donne un ordre de grandeur. Et puis on est descendu à 100 et quelques habitants, 150 ans après. Oui. Donc on retrouve exactement la même chose.
Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement là-bas ?
En termes de guerre, rien là pour le coup.
Ben oui.
Mais par contre, des escales, des missionnaires qui se sont installés, et les maladies comme la grippe, la tuberculose, et bien la variole, je ne sais pas, mais et bien d'autres, on n'a pas un relevé de toutes les maladies, mais qui ont détruit cette population. Qui n'était pas du tout, elle aussi, elle était très isolée, elle n'était pas du tout préparée à affronter tous ces microbes.
Haïti, un exemple inversé, hein, là aussi c'est ce que vous citez, avec le paludisme, la fièvre jaune, et Napoléon qui donc envoie contre les esclaves 50 000 hommes qui, eux, sont décimés, l'armée est décimée. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là ?
Alors on est après la Révolution française, pendant un temps on a dit qu'il fallait abolir l'esclavage, et ils l'ont cru en Haïti, enfin, ce qui s'appelait Saint-Domingue, c'était une île sous possession française, et Napoléon veut remettre un peu de l'ordre là-dedans, et il envoie sa sœur et son beau-frère avec une armée de 20 et quelques mille hommes, mais avec les renforts qu'ils vont avoir, on est effectivement autour de 50 000 hommes.
Ouais.
50 000 hommes, quand on se rappelle Hernán Cortés au Mexique avec quelques centaines de conquistadors, donc là on se dit, entre quelques centaines de conquistadors, on conquiert le Mexique, une armée de 50 000 hommes, ça doit pas être trop compliqué
facile,
de maîtriser une révolte d'esclaves. Et ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, au début, ils prennent le contrôle de toutes les zones côtières, de la plaine, etc. Par contre, les esclaves se réfugient dans les mandes, dans les montagnes. Et puis, arrivée la saison des pluies, tout d'un coup, il va y avoir une terrible épidémie de fièvre jaune, probablement augmentée de paludisme, puisqu'on a ces deux maladies. Et c'est des maladies qui se sont installées depuis l'arrivée de Christophe Colomb. C'est dans l'intervalle, il s'est passé 200 ans, et les maladies se sont installées. Et tout d'un coup, notre armée européenne, qui n'est pas du tout habituée à ça, se trouve confrontée avec, on va dire, des microbes africains. Des virus, ou pour le plasmodium, un parasite africain, celui qui donne le paludisme. Et les dégâts sont considérables. Il ne reviendra pratiquement personne, sauf Pauline, la sœur de Napoléon, qui va pouvoir refaire sa vie à Rome plus tard.
Et la morale de l'histoire, c'est que c'est pas la puissance militaire qui compte, mais la puissance microbienne, alors.
Et bien, quand on prend les trois éléments en même temps, c'est-à-dire des hécatombes qui ont pu y avoir dans les Amériques au moment des épidémies de variole ou dans d'autres circonstances qui ont permis de libérer le territoire pour les colons européens. L'histoire d'Haïti qui montre à l'envers, et le fait même que même sans combat en Océanie ou en Australie aussi, on a une conquête finalement de tous ces territoires, on comprend bien que toute cette zone-là, maintenant on parle français, anglais, espagnol ou portugais, on a une religion chrétienne, protestante ou catholique selon les endroits, on a une culture occidentale, tout ça c'est lié à ce flux de microbes.
Renaud Piarou, même si votre histoire dans ce livre en tout cas s'arrête à 1918 et la grippe espagnole, on va quand même évoquer des épidémies contemporaines dans un instant avec vous, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Dans les rues de Port-au-Prince, des habitants obligés d'aller chercher de l'eau potable dans des conteneurs. L'inquiétude grandit car Haïti fait face à une résurgence du choléra après plus de 3 ans sans le moindre cas. Plusieurs décès ont été constatés ces derniers jours. Les autorités appellent à la plus grande prudence et demandent d'adopter de strictes mesures d'hygiène pour éviter les transmissions. Le pays avait fait face entre 2010 et 2019 à une très importante épidémie de choléra qui avait causé la mort de 10 000 personnes. À l'origine de cette épidémie, des casques bleus qui avaient déversé des matières fécales dans un fleuve. L'ONU avait fini par reconnaître sa responsabilité en 2016.
Et ça, c'est une archive de 2022 sur France 24. Renaud Piarou, vous qui êtes épidémiologiste avec ce livre « Sapiens et les microbes » au CNRS Édition, on va faire un petit pas de côté puisque c'est un épisode que vous n'évoquez pas. Même si vous avez travaillé sur ce choléra qui a frappé Haïti en 2010, et vous avez même joué un rôle déterminant dans l'identification de l'origine de l'épidémie. On en parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a eu polémique aussi là-dessus ou pas ?
Alors finalement, le pas de côté, je vais remettre un pas dans l'autre sens, c'est que j'ai l'impression de m'être retrouvé un petit peu dans la situation du docteur Bertrand sur l'épidémie de peste à Marseille. C'est plus la peste, c'est le choléra, c'est pas arrivé par bateau, c'est arrivé par avion. Après tout le reste, par contre, ça va se construire de la même manière.
Quand on enquête d'ailleurs sur une épidémie, c'est intéressant d'avoir en tête justement l'histoire passée.
Oui,
sur ces virus.
Je ne l'avais pas suffisamment encore en tête. Maintenant, oui, c'est extrêmement important parce qu'on comprend plein de choses.
Sur les mécanismes et à l'œuvre.
Quelque chose, par exemple, sur j'ai parlé des récits, les récits contradictoires. Évidemment, ça existe dans toutes les épidémies. L'infodémie existait dans toutes les épidémies.
Qu'est-ce
aussi.
Qu'est-ce que c'est l'infodémie?
C'est la profusion d'explications plus ou moins crédibles, plus ou moins vaseuse autour d'une épidémie.
COVID.
Le sida, le Covid, ouais. Mais la syphilis aussi. Et donc, à l'époque, ça donnait des choses comme ça.
Donc, quand vous êtes à Haïti en 2010, vous devez enquêter, finalement, hein, pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé avec le choléra et comment a été introduite cette épidémie. Et donc, on l'entendait, ce sont les casques bleus népalais de l'ONU, stationnés près d'une rivière, qui, en fait, ont propagé les microbes.
Voilà, en fait, il venait d'y avoir une relève, il y avait du choléra au Népal. Et il s'installe quelque part au milieu de nulle part. En face, il y a un village de 20 maisons, donc c'est rien du tout. Et quelques jours après leur arrivée, le choléra démarre dans ce village. Et en fait, en enquêtant sur place, on s'aperçoit qu'ils avaient des fosses septiques dont ils déversaient le trop-plein dans la rivière qui était utilisée pour les ménages, pour l'eau, pour boire aussi. Et donc, ils prenaient énormément de risques de pollution de l'environnement.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est par déduction, c'est que ils ont eu un problème de choléra à l'intérieur du camp. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait la maladie, pour qu'elle soit transmise au travers d'un fleuve, il faut qu'il y ait beaucoup de Vibrio cholerae, qui est la bactérie du choléra. Et ça a été déversé. Et on le comprend bien, parce que de toute façon, aucune précaution n'était prise pour traiter les eaux usées. Et donc, il y avait un contractuel qui venait pour récupérer les trucs, mais il le balançait dans la nature à quelques dizaines de mètres de là. Et ça a déclenché la pire épidémie de choléra du 21e siècle.
Et l'ONU en est responsable, donc.
Et l'ONU en est responsable.
Les casques bleus.
L'enquête est plus longue à expliquer. J'avais pu voir dans les hôpitaux comment ça s'était passé, la chronologie précise, etc. Et il y a eu, les choses qu'on a maintenant, c'est l'étude du génome des bactéries. On a pu faire la filiation complète avec, les bactéries qui étaient au Népal quelques semaines auparavant. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est là encore le conflit entre les récits. Parce qu'évidemment, comme les autorités de Marseille n'avaient pas intérêt à dire ça venait de la cargaison du Grand Saint-Antoine,
l'ONU
n'avait absolument pas intérêt à dire ça, et l'ONU a fait venir, donc non pas l'Université de Montpellier, mais l'OMS, qui s'est bien gardé d'accabler l'ONU, même si ne pouvaient pas faire autrement que de dire que ça avait commencé à cet endroit-là, etc. Mais ils ont bien insisté pour dire c'est la faute de personne. En fait, si, quand même, il y a une faute grave. Et donc ce conflit-là, plus la partie religieuse, mais auquel je n'ai pas trop accès, mais il y avait des explications religieuses aussi au choléra en Haïti, ce conflit de récits a existé exactement de la même manière et s'est mené exactement de la même manière.
Renaud Piarou, étonnant d'ailleurs, quand on s'intéresse aussi au Covid, est très très récemment, de voir qu'on est finalement toujours dans le même mécanisme et que dès que l'on touche du doigt des choses un petit peu sensibles, comme par exemple la sortie d'un laboratoire du virus de la Covid, ça devient très très embêtant. Et là, les autorités chinoises, en tout cas l'Académie des sciences chinoises, admet cette possibilité ?
Non, pas l'Académie des sciences chinoises, non, faut pas arriver. On a un rapport qui est sorti hier de l'Académie de médecine française.
Médecine française, pardon.
C'est pas tout à fait la même chose. On a, alors, dans les trois cas, puisqu'on a trois épidémies, là, c'est intéressant, la peste à Marseille, une explication naturelle, c'est ils mangent pas bien, etc. Les gens qui déchargeaient, ils sont tombés malades, mais c'est pas la peste. Et donc, c'est surtout pas la responsabilité du bateau de son chargement. Versus une explication qui implique une responsabilité proposée par le docteur Bertrand et d'autres, qui dit, et celle qu'on a retenue hein, quand même, que c'est le déchargement, mais évidemment des soieries, des tissus qui donnent le truc. Même chose pour Haïti et le choléra. Et ben un peu la même chose, cette opposition entre deux explications, une cause naturelle, le marché aux fruits de mer de Wuhan, ou alors un laboratoire qui aurait manipulé des virus. On sait qu'il y a effectivement des laboratoires qui faisaient ça. Ce que dit l'Académie de médecine, c'est fait le point sur les deux choses et dit qu'il y a quand même plus d'arguments en faveur d'une hypothèse laboratoire. C'est 5 ans après.
Oui,
c'est pas au début.
Moi, je me souviens, parce qu'on en parlait dans le virus au carré au moment de l'épidémie en 2020, c'était ultra tabou d'évoquer même l'idée qu'un virus ait pu s'échapper d'un laboratoire. C'était quasiment du complotisme à l'époque.
C'était considéré comme du complotisme et on en arrive même à ce qu'une de mes collègues continue à dire que, en fait, l'Académie des médecines fait du complotisme.
Oui.
Ce qui est peut-être un petit peu un chouïa. On peut discuter. Je pense pas que l'Académie de médecine, en tant qu'institution, puisse être une institution complotiste.
En tout cas, c'est vrai que c'est une hypothèse qui devient de plus en plus solide au fil du temps.
Oui. Alors, on peut pas détailler.
Pas pour les Chinois.
Ce que je peux faire, c'est encourager les gens qui sont intéressés à récupérer ce rapport de l'Académie de médecine, le lire et à se faire une idée.
Voilà. Et c'est donc en français et pas en chinois, donc vous pourrez lire.
Oui. Alors, le jour où l'Académie des sciences chinoises proposera une explication comme ça, alors là.
On aurait fait un grand pas,
Oui, non, mais. J'ai du mal à croire.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Alors justement, des questions autour du Covid. Stéphanie, avec le recul, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles le confinement décidé en 2020 était la bonne solution face à la pandémie de Covid et pourquoi il n'avait pas été décidé, au contraire, de confiner face à la grippe de Hong Kong en 1970 ou la grippe espagnole en 1918 ? Comment les décisions politiques interviennent face aux épidémies dans un sens ou l'autre ?
Où tout ça est compliqué, si on prend...
Est-ce
qu'il fallait confiner ?
Ouais.
Au point où on en était arrivé... Oui, parce que on avait trop traîné pour prendre des mesures qui auraient été efficaces si on les avait prises plus tôt. Pour la grippe espagnole, il y a des endroits où ils ont confiné, des endroits où ils ne l'ont pas fait. Et ce qu'on reproche essentiellement pour la grippe espagnole, c'est d'avoir sous-réagi, en particulier au niveau militaire. Ça a été du grand n'importe quoi, en particulier dans les camps d'entraînement aux États-Unis, dans les trajets avec le continent, etc. C'est ça qui a fait que les formes les plus graves se sont propagées. Pour la grippe de Hong Kong, on n'en sait pas trop, enfin on l'a pas proposé, mais ça n'a pas été vécu comme un danger manifeste au moment où elle a débuté.
D'ailleurs, on a une autre question de Anne qui vous demande si vous avez l'intention d'étudier cette grippe dite de Hong Kong. Il semblerait que cet épisode soit très intéressant par rapport à une forme d'immunité de certaines personnes. J'imagine que vous connaissez bien le sujet.
Pas à ce point-là. Là, je pense qu'il y a besoin de...
Mais est-ce que c'est un objet d'étude intéressant, en tout cas ?
Oui. Oui, de toute façon, ces épidémies de grippe qui viennent après la pandémie de grippe espagnole, et donc qui vont venir dans les années 60, sont très importantes à étudier, mais 50 et 60. Mais je suis pas sûr qu'on obtienne énormément d'informations, mais je suis en train de regarder, je suis en train d'écrire la suite, effectivement.
Très vite, deux questions. Laurie, comment s'éteignent les épidémies ? Renaud Piarou, en général. Et s'éteignent-elles vraiment, d'ailleurs ?
Alors, certaines s'éteignent, d'autres pas. Comme on peut voir, le Covid, ça met du temps à s'éteindre. Le choléra en Haïti, c'est compliqué aussi. Et puis, le sida, ça commence, mais ça va très doucement. Donc, ça dépend de l'échelle de temps. D'autres vont rester, hein, des maladies vont rester, généralement, un peu moins virulentes. Donc, elles s'éteignent pas toujours, et l'échelle de temps peut varier.
Et puis, enfin, comment la gestion des épidémies éclaire nos sociétés ? Est-ce qu'elle est différente en fonction des régimes politiques, demande Charles, en deux mots.
Oui, elle est différente en fonction des régimes politiques, elle est différente aussi en fonction du caractère avisé de ceux qui prennent les décisions. Dans un même régime, on peut être avisé et pas du tout avisé.
Merci beaucoup Renaud Piarou. Sapiens et les microbes, c'est passionnant. Les épidémies d'autrefois au CNRS Édition. Merci beaucoup d'être venu en parler au micro de la Terre au Carré. Et merci à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier.
Merci.